Merci à Pierre de nous avoir fait à tous faire un bond de 10, 20, 30 en arrière, au temps de notre jeunesse, dans notre façon de nous exprimer. À Paul, pardon. Merci. Merci à Paul. Ouais, ça c'est la preuve de l'âge, hein, par contre. Bien, nous lirons ce matin pour notre méditation un passage dans Luc 20, versets 20 à 26. Je lis. Ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?« Ben de César, répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Et je lis un petit peu plus tôt. Jésus expose une parabole. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers le vigneron pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier. Eh bien, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons, et ils donneront la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et le récit qui suit enchaîne avec « Ils se mirent à observer Jésus ». C'est le temps des controverses. C'est un passage qui est très bien connu de nous tous, ou en tout cas de beaucoup d'entre nous, que celui qui débouche sur le « rendez à César ce qui est à César » et « à Dieu ce qui appartient à Dieu ». C'est un épisode qui intervient au moment où Jésus affirme progressivement, sa filiation divine, où il dévoile petit à petit qui il est, vraiment. C'est donc le moment où il va provoquer des réactions de plus en plus hostiles et où se dévoilent aussi les comportements et les positionnements réels des uns et des autres. Et tout ça devient finalement petit à petit insupportable pour les responsables religieux de tous les bords. Car à cette période-là, Jésus est en train de faire petit à petit, peu à peu, tomber les masques. Et en même temps, il devient aussi, et c'est ça qui est ennuyeux, de plus en plus populaire. Il devient clairement un danger, un ennemi. Il est un homme à abattre. Donc tout est bon pour faire tomber Jésus. Jésus doit absolument avoir du discrédit. Et alors dans ce genre de circonstances, où quelqu'un dérange, il y a toujours des alliances bizarres. Des adversaires d'hier, qui n'ont pas la même position, sont capables de se liguer pour l'occasion, de faire alliance. Et ce sont les récits de Matthieu et de Marc, de ce même épisode, puisqu'on le trouve dans les trois évangiles, qui nous les présentent. Les Hérodiens, partisans du roi installés par le pouvoir de Rome, Hérode. Eh bien, ces Hérodiens vont faire une coalition un peu étrange avec les pharisiens. Les uns, les Hérodiens, collaborent volontiers avec l'occupant romain. Les autres, les pharisiens, ne sont pas très impliqués dans la politique. Ils acceptent l'occupation étrangère tant que ça n'entrave pas leur liberté de culte. Ils n'ont donc pas les mêmes intérêts. Mais là, il y a une urgence. Il faut éliminer une nouvelle force socio-politico-religieuse qu'ils perçoivent et qui monte en puissance. Ils ont trouvé un ennemi commun. Et on sait bien que rien ne soude plus, temporairement au moins, qu'un ennemi commun. Alors, on va faire un peu de politique, politicienne. Pour ou contre ? Faut-il payer l'impôt à César ou pas ? Dans quelques temps, nous allons entendre ce même genre de questionnement dans notre campagne électorale présidentielle. Oui, il a déjà commencé, on me dit. Des candidats vont être sommés de prendre position sur tous les sujets, et le plus souvent de façon binaire. D'accord, pas d'accord. Blanc ou noir. Oui ou non. Vous avez une minute pour répondre. Surtout pas de nuances. Pour que l'on puisse tout de suite juger, choisir, éliminer, ne pas trop réfléchir. Réfléchir, ça prend du temps, ça fait perdre du temps. Et ici, dans notre histoire, ce matin, on n'a plus le temps. Il faut écarter Jésus du jeu politique. Et nous avons vu tout à l'heure que Jésus faisait tomber les masques, il va le faire d'une façon assez inattendue. Verset 23. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, » répondirent-ils. « Qu'est-ce que vous avez dans la poche ?»« Une pièce de monnaie. Qu'est-ce qui est gravé dessus ?»« L'effigie de César. » »« Eh bien, finalement, vous avez choisi, puisque vous acceptez de vivre dans un système politique et financier avec sa propre monnaie. Vous avez choisi. » Vous me posez une question, mais vous avez choisi. Vous y êtes, vous, dans le système. Vous me demandez d'être pour ou contre, mais vous, manifestement, vous êtes pour. La preuve, la monnaie que vous avez dans la poche. Première réponse de Jésus, donc. Votre question est intéressante, mais vous auriez mieux fait de ne pas la poser. Elle vous revient en boomerang. En fait, est-ce que c'était vraiment une question ? Première lame. Et là, vous avez les Hérodiens qui ont une raison de se sentir un peu mieux. Ouf, il ne remet pas en cause notre collaboration avec l'occupant romain. Mais du côté des pharisiens, à ce stade du dialogue, ça ne peut pas faire l'affaire. Pourquoi ? Eh bien, savez-vous ce qui est vraiment écrit sur cette pièce de monnaie ? Vous avez... Entre parenthèses, ce qui n'apparaît pas sur la pièce, mais à chaque fois, les Romains, sur leur monnaie, et d'autres d'ailleurs aussi, mettaient les premières lettres des mots. Et qu'est-ce qu'on trouve sur l'avers de la pièce ? Eh bien, Tiberius, Ti pour Tibère, qui règne à ce moment-là. Tiberius, fils du divin Auguste. Ça, c'est pour l'avers de la pièce. Et au revers de la pièce, vous trouvez Pontifex Maximus. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ben tout simplement, Tibère, César, Auguste, César, pardon, fils du divin Auguste, grand prêtre. Alors pourquoi ça ne peut pas plaire aux pharisiens? Ce qui ne peut pas plaire aux pharisiens, c'est grands prêtres. C'est insupportable qu'un empereur soit un grand prêtre pour les pharisiens. C'est tout simplement inentendable. Et le fait qu'en plus Tibère, qui est le fils de César Auguste, ait demandé au Sénat romain de faire diviniser son père, Auguste. Alors là, pour le coup, pour les pharisiens, c'est tout simplement l'hérésie totale. Tibère, César Auguste, fils du divin Auguste, grand prêtre, Pontifex Maximus. Donc, sur cette pièce de monnaie, à propos de laquelle Jésus s'exprime, il y a tout ce qui peut irriter un pharisien. Alors quoi, Jésus cautionne ? Il approuve cette divinisation du pouvoir romain ? Il a choisi son camp ? Et c'est là qu'arrive la deuxième lame. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. En d'autres mots, ce qui est écrit sur ce denier n'est pas conforme à ce que Jésus est venu annoncer. Ouf ! Alors ce sont des pharisiens qui pourraient être soulagés cette fois-ci, parce que, en effet, Jésus ne confond pas le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Alors, derrière tout cela, il y a quand même une question qui se pose, et que je pense on se pose tous à un moment donné. Les choses se compliquent. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à César et qu'est-ce qui est à Dieu? Ça nous effleure, cette question. La vie serait-elle pas plus simple si on pouvait savoir, dans une répartition claire et nette, ce qui est à César et ce qui est à Dieu? Une belle liste, bien complète. Un inventaire qui sépare les choses, qui les répartisse, ça serait tellement plus commode. Et nous aurions ainsi deux vies, une vie tournée vers César et une vie tournée vers Dieu. Il faut avouer que c'est une conception, et c'est une certaine conception de la laïcité aujourd'hui, qui est dite la conception de la séparation. Deux registres bien séparés, le domaine politique, tout ce qui est public, la vie de la cité d'un côté et de l'autre, dans le domaine privé, le domaine spirituel, le personnel, l'intime, tout ce qu'on ne veut pas voir et tout ce qu'on ne doit pas voir. Et on pourrait vivre ainsi deux vies parallèles, mais cette tentation de la séparation, elle a une signification plus profonde. Elle consiste à mettre sur un pied d'égale consistance et d'égale valeur le public et le privé à ce moment-là. Et est-ce réellement ce que dit Jésus dans « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » ? Jésus n'est pas tombé dans ce piège des deux mondes équivalents. Il n'y a aucune commune mesure entre Dieu et César. À l'un, il est vrai, il convient de rendre la monnaie qui lui appartient. À l'autre, la gloire et le culte qu'il est le seul à pouvoir revendiquer. Vous me demandez à choisir, moi, Jésus, Dieu ou César, on ne paye pas, mais il n'y a pas à choisir. On ne parle pas des mêmes réalités. On n'est pas sur le même registre. Vous mettez Dieu et César face à face, mais moi, je ne les considère pas au même niveau. C'est plus osé de dire cela au moment où Jésus le dit que nous ne l'imaginons. Avec notre histoire, celle que nous avons emmagasinée, nous avons cette liberté de penser de cette façon-là. Au moment où Jésus le dit, c'est radicalement dérangeant. Donc, rendez à César ce qui le concerne. Oui, le domaine du politique, on est bien dans le politique, dans l'organisation de la cité, pas dans la politique politicienne, mais le domaine du politique, eh bien, existe. Il y a une réalité, une monnaie qui circule, des échanges de biens, de services, nous y sommes. Une organisation de la société, à la romaine, ici. C'est un fait. La politique, c'est bien ce qui a trait à l'organisation de la cité, à l'organisation de notre espace commun. Le souverain, les autorités, l'État, ont un rôle. Ils organisent l'espace de nos vies de citoyens selon des principes de plus ou moins grande justice, de plus ou moins grande équité. César a donc un rôle. Et nous savons en plus que ce rôle n'est pas simple. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes jamais totalement satisfaits de nos Césars. Et Jésus refuse d'ailleurs de confondre les choses. Vous vous souvenez qu'un homme, à un moment donné, lui demande de régler un problème d'héritage. Et que lui répond Jésus ? « Homme, qui m'a établi pour être votre juge et régler vos partages ?» Traduction. Là-dessus, je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétent. Voyez du côté de César, quelle autorité peut vous aider à trancher ? Mais il rebondit tout de suite sur cet épisode pour se placer à un autre niveau. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et là, par contre, il a ouvert la perspective sur autre chose. Donc Jésus ne peut que décevoir les interlocuteurs qui pourraient espérer qu'il appelle à l'insurrection armée. Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, dans les années 70-80, il était de mise de considérer que Jésus était un révolutionnaire. Les révolutionnaires avaient annexé Jésus, d'une certaine façon. Quand on a vu ce qu'ont donné certaines révolutions, on est content qu'on ait un peu oublié de procéder intellectuellement ainsi. Mais c'était le cas. Et là, il n'appelle pas à l'insurrection armée contre l'occupant romain, comme le font par exemple à l'époque les Zélotes. Les Zélotes, on les appelle aussi à l'époque les Galiléens. Ils ne reconnaissent que le royaume de Dieu et surtout, ils souhaitent l'imposer. Ce sont des radicaux, comme on dit aujourd'hui. Ils s'attaquent aussi bien à leurs propres compatriotes, qui sont soupçonnés de collaborer avec l'occupant, qu'à des païens qui n'ont aucune conviction, qui, eux, parce qu'ils sont païens, souillent de leur point de vue la terre promise. Donc les Zélotes, ce sont des fanatiques. Et ce fanatisme-là, c'est en fait la volonté d'imposer Dieu sur terre. Ça s'appelle la théocratie, la confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir divin. Or, Jésus n'est pas venu imposer Dieu sur terre. Nous n'avons donc pas à imposer le royaume de Dieu sur la terre. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. À l'inverse, il y a dérapage quand César est confondu avec Dieu. Rappelez-vous notre pièce de monnaie de tout à l'heure, divin Auguste, grand prêtre. Attention, c'est aussi ce que dit Jésus, ne confondez pas. Car César ne peut pas être considéré comme répondant à tous vos besoins. Le politique n'est pas le tout de l'homme. Le politique ne peut pas réduire l'homme à sa dimension de citoyen. Le politique n'a pas la réponse aux besoins profonds de l'homme. Et quand le politique le prétend, ça donne des totalitarismes. Et nous, dans notre époque contemporaine, nous en avons des exemples encore aujourd'hui, à Corée du Nord, par exemple. Or, les chrétiens peuvent, à un moment donné, rentrer en conflit avec cette conception totalisante, totalitariste, à la toute-puissance du politique. C'est le cas même au cœur du pouvoir romain, dès le départ, dès les débuts de l'Église. Ne pas rendre le culte aux divinités romaines, pour les premiers chrétiens, c'était apparaître comme des opposants. Ça a évolué après. Mais c'était un danger parce qu'ils n'adhéraient pas. Et les premiers chrétiens rendent à Dieu, à ce moment-là, effectivement ce qui est à Dieu. Ils n'attendent pas tout de César. Et ça commence à se voir, ça commence à se savoir. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est donc aussi être le sel de la terre. C'est ce que nous demande Jésus, c'est être le levain dans la pâte. C'est être la lumière qu'on ne cache pas. Ce n'est pas vivre deux réalités parallèles, c'est vivre deux réalités qui ne se situent pas à la même altitude. C'est appartenir pleinement à notre monde, tout en sachant que ses limites ne constituent pas notre seul horizon. C'est être ici pleinement, tout en sachant que nous sommes de passage. c'est être pleinement citoyen et en même temps participant au royaume invisible de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour conclure, la réponse de Jésus n'est donc pas une réponse molle et de compromis. Elle appelle simplement à ne pas confondre notre trajectoire d'homme et notre trajectoire d'enfant de Dieu, même si ces deux trajectoires concernent la même personne. Et pour autant, elle appelle à ne pas les opposer. André Gounel, qui écrit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord d'ailleurs, mais écrit, entre autres, de cette distinction entre le spirituel et le temporel, on aurait tort de déduire que l'État n'a pas à s'occuper des religions. Il doit veiller à ce qu'elles observent la loi. À l'inverse, cette distinction ne veut pas dire que la religion n'ait aucune incidence politique. Le croyant s'intéresse à la société. Elle est aussi son affaire. Et sa foi influence ses choix et ses engagements. Il lui faut vivre et agir en tant que chrétien dans une société qui n'est pas chrétienne. Parce que seuls des êtres humains peuvent l'être. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Ça n'est jamais qu'une introduction à un sujet qui est beaucoup plus complexe et qui appellerait des développements. Par exemple, l'attitude de Paul par rapport aux autorités, qu'il faudrait que nous examinions ensemble dans sa lettre aux Romains. Mais je vous encourage à lire un livre difficile, mais qui témoigne de cette tension qui est notre situation, notre condition d'homme, qui est un livre déjà ancien, qui s'appelle « Présence au monde moderne » de Jacques Ellul, et qui montre à quel point Dieu nous demande d'être le sel de la terre. Amen.